tellement auprès des bonheurs que l'écueil de la main. Quand je radote comme un poulailler, c'est elle qui ferme le soir pour me faire arrêter. Et quand elle se met la tête en jupe, elle est belle comme une fée, comme un balcon de chalet. Elle va dans son jardin potager parler aux plantes et aux racines, comme si elle pouvait s'excuser de les avoir semés pour la cuisine. Bien avant que les petits fruits soient mûrs, elle sait déjà la confiture. Elle navigue entre les carottes et les pois de senteur. Elle va voir derrière les montagnes et jusqu'où volent les avions. Elle veut pas voir la terre en panne, quand elle jette, elle fait attention. Elle ne laisse pas crier les chiens qui veulent chasser ceux qui n'ont rien. Au milieu du désert, elle pourrait faire pousser du pain. Avec elle, je prends le jour des fleurs, elle connaît les couleurs qu'il fera demain. Elle est tellement tout près des bonheurs qu'elle écueille de la main. Quand je radote comme un poulailler, c'est elle qui ferme le soir pour me faire arrêter. Et quand elle se met la tête en jupe, elle est belle comme une fée, comme un balcon de chalet. Pour elle, y a rien qui est compliqué, elle pense à des amis qui viennent. Elle tient toujours tout préparé, c'est mieux que le château d'une reine. Elle peut tout dire sans réveiller les papillons.
Vous êtes sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Fait Club, bonjour à toutes et à tous. Rencontre avec Marc Châtelier, des cahiers d'études Léo Ferré.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'horreurs et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde la pointer, son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Tes yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes. Et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
Faire éclater votre tronche hebdomadaire de Léo, oui, sur Radio Libertaire 89.4 FM, c'est la voix de la Fédération Anarchiste absolument, qui n'a toujours pas de dieu, toujours pas de maître. Ça fait un peu plus de 40 ans que ça dure et c'est vraiment pas mal. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro du Ferré Club et j'ai le grand plaisir de ne pas être tout à fait seul dans les studios. Je ne suis même pas seul du tout dans les studios, puisque j'ai aujourd'hui le plaisir d'être en compagnie de Marc Châtelier. Bonjour Marc.
Bonjour à vous, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Ravi de te retrouver dans ce studio. Il y a bien des années maintenant que nous échangeons. Tu es un auditeur régulier de l'émission. Je te remercie d'ailleurs pour l'écoute attentive et amicale que tu portes à ce programme. Et tu es quelqu'un qui compte un peu dans ce qu'on appelle la férécie, hein. Je vais te présenter à nos auditeurs et auditrices. je vais essayer de pas faire de bêtises, mais tu me reprendras si jamais j'en fais une. Comment est-ce que je pourrais te présenter au mieux? Je pourrais dire que tu es un grand amateur de l'œuvre de Léo Ferré, que tu travailles sur cette même œuvre, que tu es écrivain, essayiste, et que tu participes à travers tes essais, justement, au cahier d'études Léo Ferré, dont j'ai parlé de temps en temps dans ce programme, mais dont je n'ai pas encore assez parlé. Je suis content aujourd'hui parce qu'on va pouvoir le faire, toi et moi, dans ce micro. On va parler, bien sûr, de Léo, je vous le disais, on va parler des cahiers d'études Léo Ferré, des éditions du Petit Véhicule, d'ailleurs, d'une manière beaucoup plus large, et puis parler de poésie, hein, d'une manière encore plus large, si possible. Voilà. Alors, Marc, je ne vais pas te prendre en traite, puisque tu connais pas mal le principe de l'émission, et tu sais qu'il y a une question d'amorce dans ce programme qui est consacré à Léo Ferré, c'est cette question de se dire, tiens, finalement, si tu rencontrais une personne qui n'a jamais entendu parler de Léo Ferré, en quels mots est-ce que tu nous présenterais Léo ?
Alors, merci pour cette question là, vous. Alors là, je vais répondre, oui, à titre vraiment personnel, et sans vraiment vouloir te corriger. C'est pas tant moi qui compte, parce que j'ai accepté de venir à ton antenne pour parler surtout du travail considérable qu'ont essayé de faire les éditions du Petit Véhicule. Donc, c'est vraiment pour aller des éditions du Petit Véhicule et de mon camarade compagnon Luc Vidal autour de ce travail de rencontre entre la poésie et la musique. Alors, Léo, pour Luc, mais essentiellement pour moi. Si je devais le présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, Léo Ferré, pour moi, c'est avant tout un poète. Hein. Peut-être le dernier, un des plus grands poètes de langue francophone. Et un poète particulier, puisque il avait cette facétie de pratiquer une poésie à coups de marteau, hein, une poésie dangereuse à coups de marteau, ce qui n'était pas pour déplaire à certains, mais ce qui irritait énormément d'autres. Et c'est ce côté iconoclaste du poète, du grand poète Léo, qui d'abord moi me touche et me marque depuis maintenant les années 1982-83. Mais ce n'est pas qu'un poète, c'est aussi un musicien. Alors ça, il l'a longuement expliqué, tous les écrits le concernant, et y compris le travail considérable que peuvent faire son fils et sa femme autour du travail du musicien, essaye de rendre hommage à ça. Mais c'est un musicien de très très haute gamme. Hein. Alors effectivement... là encore, il était iconoclaste. Hein. On ne pouvait pas donner une baguette à un chanteur de variété. Il l'a rappelé de nombreuses fois, en focalisant particulièrement sa critique acerbe sur Monsieur Von Karajan. Mais en fait, c'était un musicien, un chef d'orchestre, et qui du haut de tous les remparts de la solitude humaine, hein, et Dieu sait s'il la connaissait, savait. Diriger tous les plus grands orchestres qui soient avec sa baguette à lui. Et puis, c'est philosophiquement un compagnon, un frère d'armes, hein, au sens de la fraternité anarchiste de 1867, définie par Bakounine. Hein. C'est vraiment un frère, un compagnon d'armes, particulièrement quand il s'agit de choisir les armes des mots pour affronter notre sempiternelle et terrible solitude. Donc voilà, un poète, un musicien et un compagnon, un frère.
Quelqu'un qui t'a armé.
Ah oui. Incontestablement, enfin, au sens d'une filiation, il y a un filtre entre Léo et moi, il y a Luc Vidal, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
C'est un filtre, oui.
Parce que Luc est mon aîné, et que je pense que la rencontre que j'ai avec Luc, professionnel au départ, puisqu'il est instituteur, militant pédagogique à l'Institut de l'École moderne, à l'ICEM, Freinet, Pédagogie Freinet. Moi, je fais des stages dans sa classe, et puis on se rend compte qu'en fait, une fois la porte de la classe fermée le soir, on a l'un et l'autre plus envie d'aller lire de la poésie, voire de la poésie érotique, que de corriger nos cahiers. Bon, voilà. Et c'est comme ça que j'entre dans l'univers de Léo.
Que l'affinité avec lui se fait avec Luc Vidal aussi.
Donc, pour moi, Luc Vidal a été, oui, un filtre, un espèce de témoin qui m'a embarqué dans la galaxie et l'univers de Léo. Alors après, je ne savais pas où on allait.
Mais si tu veux, je tique un peu sur le mot du filtre, parce que le filtre, c'est aussi quelque chose qui retient certaines parties.
Alors, oui, mais justement, enfin, on y reviendra peut-être dans comment ça s'est structuré, le passage d'une revue consacrée d'abord à la poésie et à la chanson, à des cahiers d'études Léo Ferré. Mais,
on en parlera,
Oui, il a été en même temps qu'un témoin et quelqu'un qui m'a guidé vers le monde de Léo. Un passeur, voilà. Mais j'emploie le mot filtre à dessein parce que je pense que j'aurais pu avoir une appréhension très désordonnée et très iconoclaste de Léo. Et j'aurais peut-être pu faire partie. Alors, je ne souhaite pas du tout que les rédacteurs des cahiers Léo Ferré, ou du moins ceux qui en dirigent la ligne éditoriale, soient perçus comme des gardiens du temple. Il est hors de question d'être ça. Mais en même temps, on ne veut pas non plus être perçus comme des rigolos. Voilà, des iconoclastes rigolos qui prennent le drapeau noir, mais comme il le disait lui-même, c'est encore un drapeau, qui prennent le drapeau noir de Léo pour faire leur clownerie. Il est hors de question de faire le clown, parce que l'œuvre de Léo, elle est poétique, elle est musicale, elle est philosophique, mais elle est aussi métaphysique. Si on s'y penche vraiment profondément, elle est métaphysique. Et là, je reconnais à Luc... le fait de m'avoir dit il n'y a pas que il n'y a plus rien, basta, technique de l'exil ou la solitude. Il y a aussi autre chose. Ouais. Voilà.
Ça, c'est important, cette dimension, absolument, d'accord.
C'est-à-dire que c'est... Ce qu'il m'a permis sur l'œuvre continent, l'œuvre galaxie de Léo, en fait, il me l'avait permis... on avait collaboré à 5 ou 6... pour la plupart, on était tous enseignants, autour de ce qui précède les cahiers Léo Ferré, qui s'appelle la revue Signes, Art et Poésie. Et donc, Luc est un fin connaisseur de la poésie, instituteur, il a aucun doctorat, il est docteur en tout et spécialiste de rien, comme disait Debord. Mais c'est un fin connaisseur de la poésie, et à ce titre-là, il m'a permis, avec Léo, mais avec d'autres poètes avant, je pense aux poètes de l'école de Rochefort, je pense à des gens... comme Garcia Lorca, il m'a permis de comprendre qu'il n'y avait pas que la poésie qui traînait dans les annales entre la première et la terminale, qu'il y en avait une autre, et que il était hors de question de se pavoiser devant, comme dirait Léo, la société du livre, la société des poètes, qui est encore une société, et en même temps d'être... puisque c'est les années 80, d'être un punk systématique de la poésie. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les punks.
On a bien compris.
Mais trouver un peu de rigueur et de méthodologie dans l'examen critique de ce qui nous émeut à chaque fois qu'on penche nos yeux sur un octosyllabe, un alexandrin ou un vers libre.
Y compris l'œuvre de Léo, quoi, pour le coup.
Et quand on s'est attaqué à l'œuvre de Léo, alors là, véritablement, ce qu'on croyait être des petits archipels d'îles dans une déroute politique, sociale, c'était un continent. Chez Léo, c'était un continent, et que pour l'explorer, il fallait avoir un peu de méthode. La méthode, hein, la méthode selon Léo. Voilà, contrairement à une idée un peu triviale et trop souvent reçue, explorer l'exigence critique de la poésie, ça suppose de la méthode. Voilà, et... je sais gré à Luc Vidal de m'avoir aidé à faire ça, oui.
Alors effectivement, on va commencer par parler de ton rapport d'individu avec cette œuvre de Léo, mais dans ce que tu viens de me dire, je me pose une question, est-ce que finalement c'est Luc Vidal en lui-même qui t'a amené à l'œuvre de Léo, ou est-ce que tu connaissais déjà cette œuvre avant cette interaction avec lui ?
Alors, non, bien sûr, je la connaissais avant. Hein. Mmh. En tant que militant, parce que il a fallu que je... Peut-être j'apprenne la déconvenue des défaites dans les luttes. Historiquement, moi, je suis un militant.
Hein. D'accord.
Voilà, je suis un militant, je suis un instituteur. Mais dès les années 1980, j'ai 18 ans en 1980, je suis un militant, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'écologisme radical vert. Hein,
d'accord.
Donc je suis un militant contre l'installation d'une centrale nucléaire au Carnet, en Basse-Loire, en Loire-Atlantique, que Tonton, hein, le sinistre Tonton, dit François Mitterrand, va définitivement abandonner après son élection de mai 81. Mais voilà, donc il y a une coordination...
La lutte a payé.
La lutte a payé, oui, ah. Oui. C'est une des rares luttes sur lesquelles on a rien, mais je suis très jeune, et donc je découvre à cette époque-là l'auto-organisation, au sens libertaire du terme. Hein. Je traîne avec des camarades de l'Organisation communiste libertaire, de la Fédération anarchiste. Et moi, je viens de la JOC, je viens de la Jeunesse ouvrière chrétienne, donc voilà, c'est déjà... Il y a quelque chose d'assez iconoclaste qui me fait une étincelle. Et je fais aussi du théâtre à cette époque-là. Et donc dans l'atelier de théâtre où on progresse sur le jeu vocal, pendant un mois, il y a chacun doit présenter un texte. Et puis il y a une jeune femme qui annonce qu'elle va essayer de mettre en voix et en scène un texte de Léo Ferré. Et donc elle dit, ça s'annonce, le titre c'est « Il n'y a plus rien ». Et je m'en suis jamais remis. J'ai assez rapidement arrêté le théâtre. Oh. Mais voilà, donc j'entre dans Léo. Je pense que j'avais dû écouter cet extra...
Voilà, la vitrine.
La vitrine classique habituelle. Voilà, donc je... Bon, et en 1984...
Attends, excuse-moi Marc de t'interrompre, ce qui n'est pas anodin dans ce que tu me dis, c'est que tu vas rentrer dans l'œuvre de Léo avec Il n'y a plus rien, alors pourquoi pas, mais par l'intermédiaire d'une femme, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre que Léo, et qui plus est une femme.
Une femme.
Pas mal.
Et alors, 4 ans plus tard, j'ai cheminé tout seul, de façon très, justement, pas du tout méthodique, dans l'œuvre de Léo, donc c'est essentiellement les 33 tours de chez Barclay.
D'accord. Hein,
les superbes 33 tours de chez Barclay avec ses pochettes sur le fond noir, le numéro 7, 8, 9, 10, tous les albums de chez Barclay, mais je ne les ai pas tous. D'accord. Et en 1984, je valide ma formation d'élève instituteur et je fais donc un stage dans une école publique nantaise qui est celle de Luc Vidal.
D'accord.
Qui est un instituteur. Et qui le soir me dit tiens viens donc à la maison. Et là je découvre d'abord ce que c'est vraiment une bibliothèque de poésie.
Oui.
Et ce que c'est qu'une discographie complète de poésie, voilà, dans lequel il y a là aussi l'intégralité des 33 tours de chez Barclay, mais il y a aussi quelques 45 tours. Ça existait encore à cette époque-là, les 45 tours. Et entre autres, des 45 tours de chez Odéon et de Chant du Monde.
D'accord.
Voilà. Alors là, j'écarquille les yeux. Bon, voilà.
Parce que je reviens à ces quelques années entre 1980 et le choc. Tu te rappelles du prénom de la personne qui dit le texte de Léo ? Il n'y a
Marie.
Plus rien. Marie, très bien. Entre ce moment où Marie, finalement, crée une étincelle,
ouais.
Et le moment où tu vas rencontrer Luc Vidal, tu nous dis que tu vas un petit peu tâtonner. D'une certaine
tâtonne.
Manière, dans l'œuvre de Léo, ouais. Il y a des choses déjà qui te marquent, tu sens déjà dans cette œuvre quelque chose qui te permet de te dire, tiens, elle a quand même une place particulière, cette œuvre, où ce qui est dit ici est tout à fait inédit et me correspond. Ou est-ce que c'est vraiment Luc Vidal qui va t'amener à cette...
Mais, disons que Alors, je vais te prendre au mot, camarade Davout, mais...
Je t'en prie, Marc.
J'ai cru repérer dans les nombreux invités que tu fais venir à l'antenne, la triade des questions très progressives autour de comment tu présenterais le Léo, comment tu l'as découvert et qu'est-ce qu'il représente pour toi et dans ton travail. Bon, en fait, moi, mon entrée dans Léo, c'est le Léo C'est le Léo qui gueule, voilà. Hein. C'est le Léo intempestif, 68-73 non-stop. Voilà.
Le Léo qui gueule qui correspond à ton côté militant, tu dirais ?
Ah bien, tout à fait, de cette époque-là. Bon, alors, il n'y a plus rien, et puis il y a globalement tous les titres qui vont de cette période 68-73, hein, avec le chien dans ses versions, la version rock, le chien dans sa version un peu plus tard, en 84, sur O Voce Omnes de Vittoria, la solitude, technique de l'exil, et basta. Donc c'est tous ces textes-là qui pour moi... ça pulvérise tout, c'est-à-dire que je suis très attiré par la poésie et surtout ce qu'on appelle à cette époque-là la chanson à texte. Donc j'ai quelques icônes comme ça, donc comme tout le monde, Jacques Brel, Georges Brassens, Barbara, à des degrés moins des gens comme Henri Tachant, Maurice Bénin. Bon, j'aimais beaucoup François Béranger, son côté gros sabot me plaisait beaucoup. Et là, avec Léo, dans du texte poétique à dimension politique, philosophique, donc militante. C'est clair que la période Barclay 68-73, je la prends en pleine gueule, quoi. Voilà. Et je la prends en pleine gueule, et je deviens presque même un peu... je crois que je ne l'ai jamais été en tant que militant, un art, puis après post-situ, mais concernant Léo, je deviens assez prosélyte, quoi. Hein, voire méprisant, en disant « écoute ça, puis après tu verras ». Enfin, oui. Voilà, c'est quand, enfin, quelque chose qu'avec recul, je trouve assez regrettable. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'était devenu un espèce de... D'ailleurs, il en avait très bien parlé, puis il en parle très bien. Hein. Je suis une idole. Regarde-moi, je suis une idole. Et j'étais en train de tomber dans le panneau, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'il incarnait pour moi... Enfin, j'avais suivi avec beaucoup d'attention les anecdotes. Voilà, je fallait pas qu'on me parle de Jean Édernalier, fallait pas qu'on me parle tous les abrutis qui voulaient toucher une mèche de cheveux de Léo que je ne connaissais pas, dont je ne connaissais rien de sa vie privée. Pour moi, c'était des abrutis. Et, voilà, donc c'était le Léo vraiment, oui, philosophico-politique. Qui est bon, voilà. Et grâce à Luc Vidal, je vais découvrir au moins trois autres aspects considérables de l'œuvre de Léo, et ça, je peux que lui en être redevable. Enfin, voilà, parce que j'aurais pu devenir un militant post-situ, entre Debord et Ferré, particulièrement chiant, quoi.
Ouais, et prosélyte, et...
Prosélyte, voilà, et, puis... et chiant. Insupportable.
Faites des creux au ventre de la mer, vous pour qui les cheveux ne sont qu'un champ de blé, vous qui brodez des jours au drap de l'univers, vous qui faites l'amour aux roses de l'été. Comme des violons sur l'Atlantique qui chanteraient leur fantastique, le vent qui hurle sur la mer à des violons glacés horaires. Comme des violons sur l'Atlantique qui chanteraient leur fantastique, vous que l'on voit debout sur les chevaux du temps, qui buvez le coup à leurs naseaux tout blancs, vous qui passiez vos nuits à bercer les marins, vous qui donniez la vie aux roses des moulins. Comme un cheval traînant la vague, quand la mer met toutes ses bagues, le vent qui geint l'horizon met des sabots à sa chanson, comme un cheval traînant la vague. Quand la mer met toutes ses bagues, vous qui êtes en croix sur la rose des vents, vous qui tendez les bras au larron du printemps, vous dont les fauves griffes aux pattes de velours, vous qui faites de la pluie, comment ferait l'amour? Comme un oiseau dans l'infortune s'en va boire un verre de lune, le vent qui n'a plus rien à lui s'en va boire un verre de pluie. Comme un oiseau dans l'infortune s'en va boire un verre de lune. Adieu, le vent. Adieu, le vent.
Marc Châtelier nous parle des cahiers d'études Léo Ferré aujourd'hui dans le Ferré Club sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Et en 1984, donc, s'opère cette rencontre avec Luc Vidal, donc, dans le cadre de votre activité professionnelle.
Ouais, complètement voilà. Professionnelle. Et à cette époque-là, donc, Luc Vidal est président d'une amicale laïque, d'une école publique nantaise. L'école publique s'appelait l'école Henri Cochard, et c'était l'amicale laïque Henri Cochard. Et Luc est un site, avait un logement de fonction. À cette époque-là, il y avait des logements de fonction. Mmh. Et le mercredi, toute la journée, puisque et le samedi dimanche, il s'occupait des activités de l'amicale laïque. Il était assez désespéré. C'était un militant de la Ligue de l'enseignement, donc avec une vision très émancipatrice des activités culturelles et artistiques proposées aux enfants. Enfin bon, on pouvait pas se contenter des lotos, des sorties canoë. Enfin, oui. il fallait un petit peu essayer d'élever le niveau. Enfin, je pense que il y a 42 ans, hein, mais je pense que c'est tout un monde qui a disparu, quoi. Il y avait quelque chose, il y avait une volonté émancipatoire, et donc Luc avait créé une activité au sein de l'amicale laïque Henri Cochard, qui était la publication d'une revue qu'on a appelée la revue Signe, mm-hmm. S-I-G-N-E-S, donc consacrée à la rencontre entre la poésie, la musique et toutes les autres formes d'art. Bon, assez rapidement, on va faire de cette revue, il y aura 26 numéros en mmh. tout, une revue essentiellement consacrée à la rencontre entre un poète et un chanteur.
D'accord.
Voilà, avec quelques varias dans l'ordre, dans le sommaire, qui sont à chaque fois consacrés à un artiste peintre. Voilà.
D'accord.
Donc, une revue qui essaye d'embrasser, sur une thématique particulière. Donc, bon an, mal an, on avance. Et on se rend compte que cette revue contient à 1000 exemplaires sur du papier glacé, 240 grammes. Comme pour de nombreux éditeurs, elle ne se vend pas. Bien avant Internet, on fait des appels à souscription, des appels à abonnement sur le prochain numéro, etc., etc. On dépasse rarement les 400, 500 lecteurs, ce qui est déjà pas mal pour une revue, mais qui reste très, très locale, très régionale, finalement. Et décide de... Enfin, le conseil d'administration dont je faisais partie, on décide de... l'activité prenait beaucoup de place à côté des activités classiques d'une amicale laïque. Donc, en 1988, on fait scission de l'amicale laïque et on se déclare en association loi 1901. Et donc, on s'appelle les éditions du Petit Véhicule.
D'accord.
Alors, ça n'a rien, je rassure les auditeurs de Radio Libertaire.
C'est pas sur la bagnole.
Aucun dieu, aucun maître. Donc, il n'y a aucun lien entre le Petit Véhicule, la maison d'édition du Petit Véhicule et le courant du bouddhisme.
Ah oui,
du bouddhisme particulier qui s'appelle le Petit Véhicule.
Ça, il faut le savoir.
Nous avions pris Léo au mot.
D'accord.
Dans son concert de 1984 au Théâtre des Champs-Élysées, où, s'amusant de l'inculture généralisée qu'il y aura dans les années 2000 concernant Léo Ferré et Guillaume Apollinaire, il dit lui-même « il faudrait véhiculer la poésie autrement ». Voilà, donc les éditions du véhicule, c'est le pari qu'on va véhiculer la poésie autrement.
D'accord.
Par du support papier, bien sûr. Donc, on continue la revue et on... Luc se lance dans un pari assez fou, qui va durer 6 ans, de 1988 à 1994, et qui fera qu'à côté de la revue, on va produire 6 disques, un poète chanté par un chanteur. Donc, 6 disques, dont 3 prix Charles Cros. Alors, on était très fiers à chaque fois de recevoir de la part
de l'Académie. Tu peux me dire de quel disque il s'agit?
Alors,
ou au moins quelques-uns.
Le premier disque qui tout de suite nous fait sauter au plafond, donc c'est Maurice Bénéen chante René Guigadou.
D'accord.
Voilà, un poète de la Loire-Atlantique, hein, mort dramatiquement à 39 ans des suites d'un cancer foudroyant. Instituteur et résistant pendant la guerre, voilà, avec tous ses camarades poètes de l'école de Rochefort. Donc c'est Maurice Bénéen qui va chanter René Guigadou dans un disque qu'on peut retrouver sur une plateforme de distribution américaine sur laquelle on trouve tout.
D'accord.
Voilà. Vous tapez Maurice Bénéen chante René Guigadou. Voilà, donc il y a eu 2 disques de Maurice Bénéen chante René Guigadou, dont 1 prix Charles Cros, puis il y a eu un disque de Jacques Bertin, mort récemment, journaliste, politiste longtemps, mais qui était aussi un poète et un chanteur, qui va chanter Luc Bérimont, le poète Luc Bérimont. On va produire, mais ça, le disque ne sortira jamais, on va produire le Canto Général en spectacle dans les forges, près des chantiers de naval de Saint-Nazaire, à Trignac-sur-Mer. Mmh. Voilà, avec un chœur de 120 personnes. On va produire en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, un disque de Serge Kerval chantant quelques cahiers de doléances les plus poétiques. Ça doit être rendu à 5. Et le sixième, c'est un disque d'un chanteur très peu connu, mais qu'on peut aussi retrouver sur la même plateforme, qui s'appelle Jean-Michel Piton. C'est un chanteur de Vendée, un monsieur extraordinaire. Aujourd'hui, Jean-Michel, il ressemble à Christian Descamps, le chanteur d'Ange.
Ah oui.
Voilà, un monsieur qui a les cheveux très longs. Un mage majestueux, avec une voix de basse, même pas de baryton ou de ténor, de basse, une voix d'un coffre extraordinaire, et qui a chanté un florilège de poètes allant de Charles Baudelaire, en passant par Robert Desnos, voilà, un disque, peut-être celui qui a le moins bien marché, mais qui est peut-être le plus complet, parce qu'il embrase vraiment... au sens où Léo, finalement, ce qui l'intéressait, c'était de passer de François Villon de Rudebeuf, François Villon, en passant par René Baer, et puis pour finir par Aragon. Enfin, voilà, le spectre le plus large possible de la poésie. Et ce dernier disque, Jean-Michel Piton chante les poètes, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un large panel de poètes, avec des façons de versifier, d'user du vers libre complètement différentes, mais qui musicalement sont fantastiques. Voilà.
D'accord.
Bon, alors les disques ne se vendent pas beaucoup plus que la revue Signe. Voilà. Et en 1989, on continue quand même la revue. On vient de faire une revue, la revue... numéro Thérèse consacré à Georges Brassens et à Paul Fort, le poète nantais. Et Luc dit, on va faire une revue consacrée à Rimbaud.
Donc ça, c'est... On va faire une revue en elle-même ou un numéro.
Un numéro de la revue consacré à Arthur Rimbaud.
D'accord.
Et il envoie... Moi, je ne connaissais même pas. Hein. Il dit, je vais essayer d'écrire à Léo Ferré, qui était venu en 1985 à Nantes. On était allés le voir tous les deux. Et donc, voilà. Et Léo répond à Luc.
Ah ouais.
Léo répond à Luc. Donc, c'est l'époque où il chante les poètes, hein, 1988-1989. Et il répond à Luc en disant oui. Écoute, non seulement je vais t'envoyer un petit texte pour le numéro de la revue Signe que tu vas consacrer. Donc c'est ce petit texte qu'il nous a donné, qui ouvre la revue Signe numéro 14, Léo Ferré, Arthur Rimbaud.
D'accord.
Mais en plus, il accepte. Donc, on travaille en copartenariat avec une autre association de 1901 de la ville de Nantes qui organise des concerts de chansons françaises. Donc, on le fait venir.
Oh.
En périphérie nantaise, en 1989.
Oh, superbe.
Voilà.
C'est-à-dire qu'au moment où ce projet de numéro sur Rimbaud se lance, vous entamez, enfin, Luc Vidal entame
Un début de collaboration avec les éditions Petit Véhicule.
Et puis, avec Léo Ferré, et qui va se concrétiser de manière très précise.
Et qui va se concrétiser par
quoi.
Un concert.
Ah, très chouette.
Et qui va se concrétiser par un deuxième concert en 1991.
D'accord.
Donc, en fait, les éditions Petit Véhicule et l'association nantaise de la Bouche d'Air sont les deux dernières associations qu'on fait venir Léo à Nantes et en périphérie nantaise.
D'accord.
Donc, deux concerts, un en 89 et un en 91. Voilà. Et alors, à partir de là, nous, on continue. Enfin, Luc continue. Le numéro 15 va être consacré à Robert Desnos, le numéro 17 à Benjamin
de la revue Signe. Hein.
De la revue Signe. Mm-hmm. Et en 1993, il se passe que moi, je suis à Avignon. Je distribue des tracts militants place du Palais des Papes à Avignon et je tombe sur la une de Libération. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le lion est mort. Voilà. Je laisse les tracts, je laisse les camarades, je prends ma 504 et je fonce à Castiglione-Chianti sans savoir où je vais.
Ah. Ah ouais.
Et à Castiglione-Chianti, je dors dans ma bagnole pendant deux nuits. Je vais à droite, à gauche, je demande. Personne ne me répond.
Incroyable. Ouais.
Et j'ai quand même l'adresse. J'ai une adresse. Donc, du village de Castiglione-Chianti, j'envoie une carte postale à Marie-Christine Ferré, Marie-Cécile Ferré, Manuela Ferré et Mathieu Ferré. À l'adresse que j'ai.
Terrible.
Et deux mois plus tard, alors je signe au nom de Luc et Marc, et deux mois plus tard, Marie-Christine Ferré nous répond en disant, écoutez, voilà, Léo est parti, mais...
Et donc, d'une certaine manière, c'est cette impulsion qui est donnée par cette carte de Marie-Christine qui va faire naître quelque chose, c'est ça?
Alors, qui va conforter Luc Vidal et le conseil d'administration, enfin le comité de rédaction des éditions du véhicule, la revue Signe, pour nous, est vitale, nécessaire, mais elle ne rencontre pas un grand public. Les disques sont des réussites esthétiques, artistiques, mais ils ne rencontrent pas un grand public. Et on se dit, grâce à ce parrainage, hein, on avait eu le sentiment d'être parrainé par la famille de Léo. Et on imaginait bien qu'on allait pouvoir éventuellement explorer des aspects méconnus de l'œuvre. Donc on a monté ce projet de cahier d'études critiques de l'œuvre de Léo Ferré, dont je peux relire ici le projet tel qu'il est formulé. Hein.
Avec plaisir.
Donc en quelques lignes. C'est dans le premier numéro, l'objectif est donné. Les cahiers d'études Léo Ferré, études critiques Léo Ferré, se veulent une ouverture sur l'avenir avec l'ambition d'approfondir et de prolonger la connaissance de l'œuvre-vie de Léo Ferré, afin de faire connaître son rayonnement, afin de défricher, mais aussi de déchiffrer, son influence. La parution ne pourra pas être forcément régulière. Elle sera liée aux thématiques abordées et à l'ensemble des collaborateurs qui voudront bien s'y associer. Voilà. Donc,
la volonté de départ, c'est un décryptage.
Défricher, mais déchiffrer.
Et puis également prolonger connaissance l'œuvre de cette œuvre auprès du plus grand nombre, quoi, voilà, finalement, voilà. Sa diffusion. Oui, bien sûr. D'accord. Et ça va s'organiser comme ça.
Ça va s'organiser comme ça.
Très bien.
Et entre juillet 93 et octobre-novembre 94, il y a une première année. Et il y a un premier numéro qui sort, qui est le numéro 1, qui sera consacré donc à la thématique de la marge.
J'ai la leucémie dans la marge, je m'endors sur des brisants. Quand mousse la crème du large que l'on donne aux marins enfants, reprends tes 10 berges, veux-tu, laisse un peu palabrer les autres. À trop parler, on meurt, sais-tu, y a pas plus con que les apôtres. Je vis dans la marge. Dans le texte, la vague me prend tout mon sang. Je couche alors sous un prétexte que j'adultère vaguement. Je suis le sexe de la mer qu'un peu de brume désavoue. J'ouvre mon phare et j'y vois clair. Je fais du wonder à la proue. Je suis dans la marge. Laissé, musiquant des feuilles d'automne, je sais que jamais je n'irai fumer la cour de la Sorbonne, mais je suis gras comme l'hiver, comme un hiver analgésique, avec la rime au bout du verre, à la morgue de la musique, je suis dans la marge. Je suis le prophète bazar, le Jérémie des roses cuisses, une crevette sur le tard, attardée dans les interstices. Je baliverne mes ennuis, je dis que je suis à la pêche, et vers l'automne de mes nuits, je chandelle encore la chair fraîche. Je suis dans la marge. Tes bibelots, tes bonbons sûrs, tes oraisons, tes bigornades, tes salaisons, tes dessous murs, quand l'œil descend sous les œillades, regarde bien, c'est là qu'il gît le vert paradis de l'entraide, vers l'entre-doux de ton doux nid. Si tu me tends le cul, je cède, je suis dans le texte.
100 d'unimètre, Radio Libertaire 89.4 FM, Marc Châtelier des cahiers d'études Léo Ferré, aujourd'hui dans le Ferré Club.
Je suis dans ton texte.
D'une certaine manière, est-ce que je suis maladroit en disant que Luc Vidal et toi êtes un petit peu les chevilles ouvrières de cette revue ? Comment est-ce qu'on pourrait dire ?
Alors, après, c'est... incontestablement, Luc, en tant que directeur de publication des éditions du Petit Véhicule, de la revue Signe, des productions de type vinyle, puis après ce qu'on appelait les CD numériques, parce que les premiers disques qu'on fait, ce sont des vinyles, hein, 33 tours. On se lance dans un nouveau format, hein, donc un format de cahier d'études, un petit peu comme les cahiers Gide, hein, donc un format cahier carré, hein, 21 sur 21. En tant que directeur de la publication, il est la cheville ouvrière, ça c'est clair.
Bien sûr.
Et après, on va essayer de monter un comité de rédaction dans lequel on va essayer de manier avec extrêmement de doigté et de précaution à la fois les compétences, mais qui se jumellent aussi avec des susceptibilités de plein de gens qui, pour des raisons diverses, ont connu Léo Ferré, ont travaillé avec lui. Je pense par exemple, on a eu l'immense honneur. Alors moi, je le dis aujourd'hui avec beaucoup d'affection en pensant à elle. On a eu l'immense honneur d'avoir Françoise Travelet, hein, dans notre comité de rédaction, avec qui c'était un véritable plaisir de travailler. Mais on a eu aussi des gens comme Robert Orville, Robert Belleret, Jacques Layani, à qui je transmets mon salut amical. Luc Vidal avait eu cette image très très fine et très juste, mais parce que en fait, on l'avait expérimenté avec la revue Signe et avec les disques. Hein, faire se rencontrer un poète et un chanteur, souvent un poète méconnu avec un chanteur dont l'ego peut être plus ou moins important, c'est déjà travailler des susceptibilités différentes.
Oui,
et travailler sur l'œuvre d'un géant comme Léo, avec des gens qui viennent d'horizons différents, certains universitaires, d'autres purement passionnés comme Luc et moi, sans aucune qualité S reconnue, avec des gens comme qui n'étaient ni universitaires ni avec des qualités S reconnues, mais qui avaient beaucoup de méthodes. Je pense à Jacques Layani, je pense au travail extraordinaire d'archiviste que fait Jacques. Bon, voilà, il fallait ménager les points de vue de chacun et aller en même temps aussi chercher des contributions un peu poétiques, hein, qui sortent du lot, c'est-à-dire qui bousculent tout le monde. Bon, donc c'était un travail de magicien, enfin de magicien, mais parfois périlleux. Hein. Il fallait tenir en équilibre les comités éditoriaux qui étaient souvent fluctuants d'un numéro sur l'autre.
D'accord.
Et pour ceux qui ont la chance d'avoir l'intégralité des 12 numéros jusque-là, on voit que le comité rédactionnel, d'un numéro à l'autre, il enfle, et puis tout d'un coup, il se réduit, peau de chagrin. Voilà.
Oui, mais ça, c'est peut-être une nécessité par rapport au thème, ou une nécessité, ou disons, une conséquence du thème. Par exemple, sur le thème de la mer, peut-être que quelqu'un a quelque chose à dire à propos du thème de la mer, et chez Léo, hein, bien évidemment. Et peut-être que cette même personne n'a rien à dire sur la marge, ou tu vois, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi une...
C'est... Alors après, bon, on va pas rentrer là, c'est pas le lieu de l'émission.
Non, bien sûr.
C'est quand même globalement ce qu'on va nous reprocher. C'est-à-dire que c'est une revue qui séduit beaucoup, mais c'est une revue qui, au regard de l'objectif qu'elle annonce, tel que je l'ai eu tout à l'heure, pour certains, n'est pas assez rigoureuse.
D'accord.
N'est pas assez méthodologique. Mais en même temps, on veut pas devenir une revue universitaire sur l'œuvre de Léo.
Oui,
hors de question d'être ça.
D'accord. Oui, on a bien entendu la dimension aussi, la volonté d'inclure une dimension politique, une démarche d'écriture un peu plus, pardon, pas politique, poétique justement.
Poétique.
Oui, voilà, bien sûr.
C'est-à-dire que de la même façon que j'ai tout à l'heure dit que Léo était pour moi un grand poète qui faisait de la poésie à coups de marteau, un grand musicien. Cormerdel, les chefs d'orchestre, parce que du haut de ses remparts de Monaco, à 7 ans déjà, il dirigeait des orchestres beaucoup plus puissants que le Philharmonique de Berlin.
Mmh.
Et un compagnon d'armes, parce que il avait compris, hein, les armes et les mots, c'est pareil.
Bien sûr.
Donc voilà, donc finalement, dans les cahiers d'études critiques, derrière le message défriché et déchiffré l'œuvre Galaxie de Léo, il y avait cette volonté, en tout cas pour Luc, pour moi, de garder ces trois dimensions, c'est-à-dire, oui, on vous emmerde, les spécialistes de Léo Ferré, parce que on va peut-être faire un cahier poétique à coups de marteau. Oui, on vous emmerde, les spécialistes de la musique, parce qu'on va publier des partitions et des tablatures qui vont peut-être pas correspondre à ce que un expert musicologue voudrait. D'accord. Et oui, on vous emmerde, les militants dont je venais, post-ANAR, post-OCL, post-SITU, parce que il n'y a pas de vadémécum sur comment faire pour la révolution demain matin, mais par contre, il y a de la poésie métaphysique, et peut-être qu'il faut que vous la lisiez, que ça vous ferait du bien un petit peu. Enfin voilà, à chaque fois, n'être jamais là où on nous attendait. Et rien que ça, n'être jamais là où on nous attend, pour nous, c'est être fidèle à la pensée de Léo. Voilà. Et donc, donc on est très fiers d'avoir eu dans au moins les 9 premiers numéros le comité de rédaction qu'on a eu. Et puis après, c'est des cercles concentriques. Hein, on sortait, c'est-à-dire que par moment, on est allé voir Pietre Gala, on est allé voir Richard Martin. Rencontrer quelqu'un comme Richard Martin ou Pietre Gala, c'était fantastique. Donc ils collaborent à des numéros, ils sont plus ou moins associés au comité de rédaction sans en être. Donc voilà, c'est. L'idée, c'était de faire se rencontrer tous ceux qui l'avaient approché à un moment donné, mais de ne jamais devenir des gardiens du temple. Parce que, alors là, je pense que, à vouloir faire de l'œuvre de Léo un temple, on va véritablement le faire retourner dans sa tombe. C'est pas possible, autant soit peu que. Donc, c'était impossible pour nous de. Il fallait une méthode. Il fallait une méthode au sens des trois dimensions, le poète, le musicien et le compagnon d'armes. Mais en même temps, il fallait absolument pas que ça devienne une revue du temple.
Bien sûr. Et puis, ça aurait été un petit peu en contradiction avec le message de Léo aussi, la dimension justement iconoclaste, mot sur lequel tu insistais, de l'œuvre de Léo. Et puis, au-delà de l'œuvre, même du parcours d'individu de Léo, quoi. Ouais. On part en 1994, c'est ça ? Le premier numéro ?
On part en 1994. Alors, 1994, d'accord. Donc le premier numéro. Alors, c'est très irrégulomadaire. Oui. Parce que là, je ne vais pas. Bon, il y a les conditions d'élaboration, du montage, une fois qu'une thématique est fixée. On a essayé au moins jusqu'au numéro 5. Hein. On organisait des réunion du comité de rédaction à Paris, parce que nous étions un peu des petits provinces.
Ouais, et le point central, c'était Paname, alors, du coup. Ouais.
Il y a quand même beaucoup de gens qui étaient, qui étaient parisiens, donc c'est nous qui nous déplacions. Et puis, peu à peu, ça nous coûtait du pognon.
Ah oui.
Jusqu'au
numéro 5, il y avait des rencontres. Alors,
premier numéro, La Marge. Alors, c'est très irrégulomadaire. Premier numéro, La Marge. Hein. Mm-hmm. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est de prendre un titre de chanson, un titre de poème.
Ah, d'accord.
Et de laisser libre cours à chaque collaborateur pressenti. Donc, bien sûr, ceux du comité de rédaction. Mais. Nous, en tant que directeur de publication, Luc et moi, on allait chercher d'autres auteurs. Alors peut-être que c'est ça qu'on nous a reproché. Hein.
Oui, mais enfin.
Voilà. Donc La Marge, un numéro qui s'est très bien vendu, le premier numéro.
Donc en fait, vous partez du titre d'une chanson. Et ensuite, à chacun des membres ou à chacune des membres des comités de rédaction de venir mettre son grain de sel. Par exemple, on peut dire que lorsque vous sollicitez Robert Orville, il va avoir une démarche assez universitaire par rapport au thème que vous allez lui proposer. Lorsque vous allez solliciter Mathilde Weber, c'est ça, dont on parlait tout à l'heure, et qui va avoir une démarche peut-être beaucoup plus de poétesse à ce moment-là. Donc c'est cette volonté aussi de mêler différents types d'écriture autour d'un thème.
Alors il y a un titre de chansons qui génèrent un thème, une problématique. Et autour de cette problématique, il y a trois aspects. Y a le premier aspect, les conditions d'émergence de l'écrit, qui est l'objet du titre. Par exemple, le texte La Marge, d'où il vient. On s'est rendu compte après coup qu'en fait, on avait pris énormément de textes qui viennent des chants de la fureur du Gléclin. Énormément.
D'accord.
Voilà. Ouais. On s'en est rendu compte a posteriori.
Ouais. Comme quoi, c'est un pivot, quoi. C'est vraiment le pivot central, peut-être.
Oui, oui. Et donc...
Quand tu dis... Alors, je voudrais, spécifier pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas précisément l'œuvre de Léo. Quand tu parles des chants de la fureur de Guesclin, c'est un texte.
Oui, c'est un seul texte
de Léo, très long, un texte fleuve, dans lequel il va découper plusieurs portions pour créer 6 ou 7 chansons. Je crois que c'est à peu près ça.
Qu'importe. Oui, oui. En tout cas, au minimum 7.
Au minimum 7.
Hein, et dont, alors, par exemple, pour les deux premiers, La Marge et World World World, c'est sûr. L'album La Violence et la Nuit. Hein. Bon. Qui sont.
La Marge, non, c'est Ludwig.
C'est dans Ludwig.
Ouais,
mais alors, dans l'album Ludwig, il me semble aussi qu'il y a des passages des chants de la fureur. Donc, autour d'un texte, on a trois angles d'attaque. Le premier qui est les conditions d'émergence de ce texte. Donc,
la chanson de Léo en elle-même.
La chanson de Léo en elle-même.
Bien sûr,
donc
oui.
Là, effectivement, bah, les S spécialistes comme Robert Orville ou Jacques Layani ou Françoise Travelet sont d'une... une deuxième qui est... une dimension plus examen critique de la façon dont c'est écrit.
Un travail de linguiste, là, davantage.
Ni Luc ni moi ne sommes linguistes.
Non, mais enfin...
Au sens de ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on découvre, nous, hein, on découvre à travers, dans les 5 premiers numéros, que par exemple, Léo Ferré est très attiré par l'octosyllabe. Le vers des troubadours. Hein. François Villon écrit en octosyllabes. Bon. Et Léo a beaucoup écrit en octosyllabes. Bon. Donc voilà. Et puis il y a un troisième truc qui est Varia. Hein. Donc ouais. Open bar, j'ai envie de dire, ouais. Pour des auteurs qu'on va chercher autour de ce texte-là. Donc bon, mais voilà ce que ça leur inspire. Donc à chaque fois, le numéro est bâti sur ces trois charpentes-là. Les conditions d'émergence du titre de Léo. À quoi ça correspond sur le plan de la composition strictement linguistique et poétique? Quelle période de sa vie, de son attirance pour tel courant ou pas de la poésie, toujours la même question, est-ce que finalement Léo est un poète moderne ou est-ce que c'est un poète classique? Et ben les deux, mon capitaine.
D'accord.
Les deux, parce que Léo est certainement le plus grand défenseur de la poésie classique, au sens, par exemple, où il a sans qu'on s'en rende compte, hein, moi j'ai une chanson... comme beaucoup, hein, une chanson qui je sais pas pourquoi, mais elle me parle. Et en fait, c'est un véritable, comme la mémoire et la mer, c'est un véritable, c'est incompréhensible. Bon, c'est la chanson FLB, dans la violence et l'ennui. Mmh. Bon, c'est tout en octosyllabe, avec la césure à l'hémistiche parfaite à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça coule tellement, avec ses deux mains au piano, ça coule tellement bien, que l'octosyllabe, on ne l'entend plus. Mais il nous berce. Il nous berce comme une vague, comme un roulis. Il en parle du roulis, il en parle bien du roulis Léo. Voilà. Et voilà. Donc moi j'ai beaucoup écrit là-dessus dans chaque numéro sur comment il a su alchimiquement retourner à une métrique. Hein, il a dit par ailleurs que ceux qui se servent de leurs doigts pour compter ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes, hein, ceux qui se servent de leurs doigts. Alors, sauf que lui, manifestement, l'octosyllabe, il l'avait intérieurement déjà tellement fort intégré que, ben voilà, il savait le reproduire, et y compris orchestré par les zoos. Voilà, donc il y avait cette deuxième dimension. Et puis après, bah, des thèmes plus libres. Hein, je pense, par exemple, dans le numéro 3 qui s'appelle... Donc numéro 1, La Marge. Numéro 2, D'accord. Words, Words, Words.
Ah oui.
Numéro 3, De Toutes les Couleurs.
Oui.
Voilà, De Toutes les Couleurs. Alors là, on avait un petit coup de crise peut-être. Bon, il y a des copains et des copines nantais qui écrivent là-dedans. Je pense que ça n'avait pas beaucoup plu.
Bon, le numéro 4 qui s'appelle... Dans la troisième volonté, c'est ça dans,
oui,
qui écrivent
oui,
dans,
les variables,
dans l'idée...
Oui, les variables. Variables.
D'accord, d'accord.
Le numéro 4 sera consacré à la chanson « Écoute-moi ». Alors là, on laisse un peu de temps passer. Et puis on a le numéro 5, alors là, qui pour moi, redevient un numéro vraiment là de très haute densité, un peu comme le numéro 1. « Bussesein, es Bussesein ».
Oui.
Voilà, là où on s'attaque véritablement à la dimension du musicien. Le numéro 6 aussi, qui est un numéro, alors là, sur qui m'est peut-être le plus cher, celui sur le compagnon d'armes, la métaphysique existentielle de nos pauvres carapaces humaines condamnées à la solitude. Technique de l'exil, bien sûr.
Ouais. C'est un texte qui t'a marqué, ça, hein, parce que tu, déjà, lors de ton